convergence citoyenne pour une transition énergétique, à l'initiative des collectifs contre le gaz de schiste. Les 26, 27 et 28 août à Lézan en Cévennes, c'est le rassemblement Énergie pour la planète. Un événement couvert par une quinzaine de radios associatives partout en France.
Eh bien bonjour, on va commencer aujourd'hui, c'est le premier plateau de la journée, il y en aura deux autres, un à 14h et un à 17h. Donc comme vous l'avez peut-être compris, du 26 au 28 août, nous sommes à Lézan en direct dans le Gard à l'occasion de la manifestation Convergence citoyenne pour la transition énergétique. Pour cette occasion, il y a une quinzaine de radios associatives qui ont décidé de relayer cet événement. Ces événements, ces rencontres autour de table comme aujourd'hui, et puis aussi en faisant des interviews, en prenant les sons des différentes interventions qu'il y a dans les différents chapiteaux. Il y en a quatre à Lézan, énormément d'intervenants quelles sont les radios? Je vais vous les donner. Il y a Fréquence Paris Pluriel, Paris c'est nous entre autres aujourd'hui qui allons animer avec un autre animateur cette émission aujourd'hui. Il y a Radio Sainte-Afrique en Aveyron, la radio Gris Ouverte à Alès, la radio Système à Vauvert, la radio Larzac, Plume FM à Séran, dans le Morbihan en Bretagne, puisqu'il y a un certain nombre de radios qui vont relayer ces débats, ces discussions. Alliance Plus à Nîmes, à Montpellier, il y a une radio dans l'Hérault et à Saint-André de Sangoni, la radio de Sommières, il y a Terra One Web Radio, et puis il y a Radio 16 à Bessègues, et puis aussi Knowledge TV Radio. Voilà. Vous pourrez retrouver l'ensemble des plateaux, des émissions que nous allons réaliser ensemble sur Son en Lutte, www.sonenlutte.net. Voilà. Et ben on va commencer ce plateau. Donc pour l'animer, il y a moi, Nadia, de Fréquence Paris Pluriel. Il y a Joël qui va prendre son micro et qui va dire bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.
Voilà. Et puis
Edmond, Radio Système, salut.
Salut. Et puis, on va commencer cette émission. Alors, hier se tenait sous le chapiteau numéro 3, me semble-t-il, une discussion sur organisation, coordination des luttes concernant le gaz de schiste. Et lors de cette discussion, on a rencontré Jean-Louis Chopy, qui fait partie du collectif Stop au gaz de schiste en Ardèche, et on lui a demandé de venir pour pouvoir parler avec lui de tout ça, de la lutte, de l'organisation et de la coordination, et puis des perspectives, puisque dès septembre ça va redémarrer. Et comment ça va redémarrer, ça va être la grande question. Bonjour,
voilà,
Jean-Louis.
Bonjour. Comment ça a démarré? Au moment des fêtes, entre Noël et Jour de l'An, on a découvert le problème.
Alors, comment vous l'avez découvert?
On a découvert, d'abord, il y avait un petit travail Europe Écologie qui avait déjà donné une conférence de presse. Et nous, je fais partie aussi de Protection Nature, on a été vexés de voir qu'on avait zappé complètement ce truc-là qui s'était signé au mois de mars.
Aucune info?
On n'est pas tombé sur des infos. On n'est pas tombé sur des infos. Donc, par contre,
c'est Jean-Louis Borloo qui avait donné son aval.
Oui. Lui, je ne sais pas s'il est concerné, mais... C'est surtout ces équipes de techniciens, des ingénieurs généraux des mines qui travaillent, nous a-t-il dit dernièrement, on l'a rencontré là, c'est les ingénieurs généraux des mines qui sont le pôle technique à l'intérieur du ministère de l'énergie, à l'intérieur d'Areva, à l'intérieur d'EDF, etc., qui pilotent tout ça. Et d'après, c'est eux qui ont signé, y compris d'ailleurs notre préfet de région actuel, qui était directeur de cabinet à l'époque, directeur de cabinet de Borloo, qui a été balancé préfet de région Rhône-Alpes, en changement de gouvernement. Donc c'est lui qui veille au grain. Il s'est vanté d'avoir signé lui-même les permis, c'est sympa. Donc on a perçu ça. Certains ont pris Gazland sur le web. Waouh! Et puis là-dessus, on est tombé également, des copains ont fait passer des papiers qui avaient été fabriqués, pardon, qui avaient été fabriqués par CAP21, le groupe de Corinne Lepage. Hein, tu parles de son bord politique du tout, mais papier super.
De fait,
papiers.
Elle a fait l'info. Enfin, il y avait l'info.
Elle a fait l'info. Il y avait l'info. Avec le problème au plan mondial, le problème au plan européen, le problème au plan français et le problème au plan local. Il y avait même les cartes du permis de Villeneuve-de-Berg, du permis de Montélimar, du permis de l'Aveyron et compagnie. Tout ça était détaillé avec des images et puis des images extraites de Gazland, les références pour se brancher. Waouh, on a débarqué là-dessus. Donc. Le 12 janvier, on a essayé une réunion à 3-4 pour constituer un collectif, quoi. On s'est retrouvé à 35. Alors, pour bosser à 35 comme ça, au départ, on a dit, bon, c'est râpé, on discute un peu, etc. 8 jours après, une réunion. Et là, on a prévu le coup, on était 70. Donc, on a fait visionner Gazland pour la majorité. Puis, on s'est retrouvé. Et là, on s'est retrouvé avec des représentants des partis politiques, des syndicats. Le bouche à oreille fonctionnait terriblement. Hein, les gens s'étaient cliqués Gazland, etc. Waouh, ils se sont réveillés tout de suite. Donc, le problème au départ, ça a été, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a créé un collectif tout à fait horizontal, hein, parce que j'ai un peu veillé au grain quand même, pour pas qu'il y ait de dominants là-dedans. Donc, on a dit, des référents, bon, deux référents par groupe, par orga, deux référents pour le Parti communiste, pour le Parti socialiste qui était là, etc., deux référents par syndicat, deux référents, etc. Et on va créer un collectif Ardèche. Et ensuite, on va démultiplier ça pour le rendre opérationnel, que tout le monde soit impliqué, avec des collectifs locaux, par village ou par ville ou par groupement de village, etc. Voilà comment on a démarré. Et là, assez rapidement, on a eu des demandes d'interview, enfin des demandes d'interview, des demandes d'organisation de séances publiques dans les villages les premiers concernés. Le permis de Villeneuve-de-Berg, qui concerne une zone de 900 et quelques kilomètres carrés, il y a un gros investissement qui était promis par GDF Suez et Schubar le foreur, qui est américano-suisse, ben c'est un texan, enfin bon. Et là, on a dit, c'est là qu'il faut porter le paquet. Le maire de Villeneuve-de-Berg a démarré sur les chapeaux de roue, Valvinière à côté sur les chapeaux de roue, et là, on a pu lancer des réunions, les premières réunions. Alors, il y a eu différentes réunions de...
Vous avez été soutenu donc par les élus locaux.
Tout de suite.
Qui vous ont donné les salles, pas qui vous problème. Ont facilité pas les problème. Possibilités de réunion,
et
etc.
Et les électeurs de ces élus, parce que tout, c'était pas au diapason comme celui de Villeneuve-de-Berg, qui nous a filé, d'ailleurs très bon, le détail de ce que lui avait donné comme document GDF Suez. Mm-hmm. On a pu dire, d'ailleurs, là-dessus, il était prévu que dans l'exploration, c'est-à-dire la recherche, qu'il était prévu de faire de la fameuse fracturation hydraulique. C'était écrit sur le document. Donc on a pu dire au ministère, vous nous dites des couillonnades, c'est faux ce que vous nous dites, parce que dans le site d'exploration, GDF Suez le marque.
Ouais, d'accord.
Alors ça réveille les foules, ça dit. La fracturation hydraulique, avec toutes les images que vous avez vues sur Gazland, eh bien ça va produire chez nous, vous en voulez? Nos vignes, le tourisme, qu'est-ce que ça va devenir? Nos vies, l'eau, qu'est-ce que ça va devenir?
Ça, c'est le mauvais résultat que vous nous présentez. Mais moi, je veux revenir sur votre coordination. Vous avez nettement avancé maintenant dans les organisations, etc. Comment se fait-il qu'un département comme le Gard ne soit pas représenté ici, le sud du Gard, pardon,
oui,
qui a déjà eu pas mal à faire avec certains forages de côté pétrolier dans le temps?
Oui. Écoutez, là, en général, il faut qu'une orga, il faut quelque chose qui initialise le débat. Lance le truc, fabrique quelques affiches, quelques tracts. C'est ce qu'on a fait dès le départ. Les premières réunions publiques, on a mis à la sortie un tronc, là. Si vous voulez nous aider, mettez quelques sous. Ce qui nous a permis, bon, on a avancé un peu d'argent, mais ça nous a permis de faire des tracts, de distribuer avec des images dessus, des références pour que les gens aillent voir, etc. Et démultiplier cette connaissance auprès de tout le monde. Ce qu'on disait, maintenant que vous savez quelques trucs, maintenant que vous avez quelques référents, parlez-en à vos amis, à vos parents, etc., pour que vous sachiez. Alors, il faut un noyau au départ. Nous, c'est, faut le dire, bon, il y a Europe Écologie, on a beaucoup travaillé, surtout Guillaume Vermorel, là, qui est spéléo, qui est prof également dans la technique, etc. On a travaillé sur ces techniques-là. Et puis, il y a une certaine confiance. Il faut dire qu'on a tourné, moi j'ai été à Attaque aussi, on a tourné avec Le Bien Commun, un film canadien, polycarré, on a tourné dans les villages. On est montré comment nos biens communs, l'eau, le transport, tout ça, les foutu en l'air hein, par la privatisation, la mondialisation, etc. On a tourné déjà. On a tourné contre les OGM.
Vous étiez déjà connu et voilà. Reconnu dans vos villages.
Oui, c'est peut-être pour
villages.
Ça que ça s'est bien amorcé si rapidement.
Mais justement, par rapport quand même à la privatisation de l'eau, puisque l'un ne va pas sans l'autre, visiblement. On voit qu'ici, en France, c'est quasiment dans toutes les villes, c'est géré par des privés.
Ben ouais.
Donc voilà, il y a aussi, comment se fait-il justement que justement sur ces deux questions, il n'y ait pas un rapprochement, je veux dire, et de pouvoir effectivement récupérer une gestion publique de tout ça. Voilà, c'est juste une petite parenthèse.
Alors, on s'est battu il y a 3 ans pour que la gestion privée par en gestion publique, en régie. Eh bien, on a perdu. Par contre, il y a un peu plus de maires maintenant dans le groupe. Hein. Le syndicat des eaux de Basse-Ardèche, le CEBA, hein, regroupe 80 maires quand même. Par contre, là aussi, il y a des dominants. Le président, qui est un maire, est un dominant. Et puis, bon, je ne sais pas s'il a palpé, comme on dit, mais j'en sais rien. En tout cas, il a retourné sa veste rapidement. Et voilà pourquoi.
C'est marrant parce que tu disais tout à l'heure, justement, que vous aviez essayé de réfléchir à une espèce d'organisation horizontale où il n'y aurait pas de dominant. Et là, tu es en train de nous dire que finalement, il y a quand même quelqu'un qui manage un peu l'affaire. Quoi.
Non, mais il y a des grandes gueules, je veux dire, toi. C'est pareil,
c'est
là,
le plus malin qui s'y est mis.
La première réunion. Bon, ils m'ont entendu parler. Et puis, bon. À la première réunion, on dit qu'il n'y a pas de hiérarchie. Mais il faut des porte-parole vers l'extérieur. Bon, on a dit, qui est-ce qui est candidat? Ils sont tous tournés vers moi. Et puis Yann Chauvin, mon directeur de Frapna, évidemment, c'est vous deux. Ah bon. Voilà, c'est un rapport de confiance aussi. Hein. C'est un rapport de confiance qui a joué beaucoup.
Est-ce que c'est pas inévitable au bout d'un moment, parce que tu parlais que les premières, c'était assez horizontal. Et finalement, en tout cas, de ce que j'ai vu en gare Nord, Gare Nord, pas Gare du Nord.
Hein. Non.
le
Gare
parisien,
oui,
j'en profite.
Oui,
je
tu fais bien, on aurait pu se tromper.
Et toutes ces premières réunions qu'on fait très peur aux gens et où il y avait énormément de gens dans même les toutes petites communes, c'était à base de 200, 300, 400 personnes. Et en fait, ces réunions, elles étaient très informatives puisqu'au départ, personne n'avait réellement d'informations sur ce qu'était le gaz de schiste, comment il allait être extrait. Et du coup, au départ, effectivement, il n'y a pas de gens qui vont faire les plus grandes gueules ou les chefs. Et puis, inévitablement, peut-être au bout d'un moment, s'il n'y a pas de réelle discussion à plat de comment on va mener cette lutte, de fait, il y a des gens qui sachent
des
qui savent pour
d'autres.
Là-dessus, voilà.
Ouais. Oui,
tu crois pas?
Oui, mais enfin, dès les premières réunions, si tu veux... On a été un certain nombre à parler. Moi, je suis pas... Bon, d'accord, mais je suis pas non plus... Je suis un peu vieux aussi, donc il faut renouveler les troupes. Mais on s'est partagé les réunions. Les gens qui n'avaient pas de compétences pour parler, pas d'habitude, etc., eh bien, ils en ont pris. Hein. Et petit à petit, ça s'est créé. Les groupes, on est maintenant un certain nombre à pouvoir... en plus, on a fabriqué des outils. Donc, il y a une petite firme vidéo militante qui nous a fabriqué un 22 minutes avec Gazland. Avec, en plus, ils ont enregistré, ils ont lu les commentaires surlignés, là. Et donc, avec un petit accent, d'ailleurs, c'est pas des choix de fouche, comme on dit l'autre, moi non plus, d'ailleurs. Et ça a démarré comme ça. Donc, là, avec ces outils-là, 22 minutes Gazland, des vidéos... fabriqué par justement Guillaume Vermorel, etc. Des petites vidéos montrant la technique, tu vois, en utilisant des outils visuels. Et on démarrait par ça, les réunions. Et ensuite, débat. Et sur les questions, qui étaient diverses et variées, suivant les... Mais on a eu des, quand même, je ne sais pas, peut-être 80 réunions dans les communes. Hein. Alors, il y en a une, où, je ne dis pas qu'on a failli être submergé par... C'était une période électorale, hein, n'est-ce pas? Donc, il y en a une à Saint-Cernin, qui avait été organisée par effectivement des conseillères régionales et puis etc. Et sur la tribune, il y avait beaucoup d'élus. Bon, quand même, il m'avait invité.
Non, mais il y a toujours des tentatives de récupération dans les mouvements. Bon, il faut être très vigilant.
Mais moi, je ne critique pas. Je veux dire, il s'agit de, c'est une partie de bras de fer, quoi. Il faut que les citoyens qui veulent pas être encartés, se réveillent et créent des collectifs non encartés, Boudiou. C'est pas la peine de. C'est ça le truc, il faut créer des collectifs et jouer avec les autres. S'il y a des militants dans les partis, ils sont nécessaires les militants dans les partis, quel que soit le parti d'ailleurs. Hein.
Oui, et puis on peut aussi dire qu'il y a certains maires qui sont lancés en tant que militants dedans et qui n'ont pas essayé de récupérer quoi que ce soit dans ces mouvements, qui s'y sont allés vraiment
Oui, en militant.
On va voir tout à l'heure, non, mais, par exemple.
Il y en a, mais on l'a dit, attends, Christian, arrête, tu as beaucoup parlé maintenant, à moi maintenant, je suis porte-parole du collectif, tu vois. On arrive, il ne faut pas être timide vis-à-vis non plus des grandes gueules du reste des autres groupes.
J'avais envie de revenir un petit peu sur... Bon, vous êtes organisé à un niveau local, vous vous êtes rendu compte que c'était une problématique nationale, donc il y a eu la nécessité de rencontrer d'autres collectifs ailleurs, d'essayer de se coordonner, de créer des liens entre les différents collectifs. Comment ça s'est passé?
C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'entre nous là, qui se sont chargés de ça. Nous avons créé des commissions spécialisées, une commission finance. On n'a pas de finances, mais enfin, pas pour l'instant. Mais une commission communication, une commission organisation.
Juridique aussi. Une commission juridique, je dis aussi.
Une commission juridique, une commission scientifique avec plein de géologues et d'hydrogéologues. Et puis une commission pour les liaisons à l'extérieur. Donc là, c'est Viginature, Machin Mériton qui s'en occupe. Donc, liaison avec le Gard, avec le Vaucluse, liaison. Et avec également l'international. Tu vois ? Donc, on avait dans nos troupes, il y a d'ex-citoyens hollandais, allemands, etc. Ils ont pris contact, ils sont montés des fois à Bruxelles pour contacter, qui avait des réunions avec. C'est Michel Rivasi qui avait fait venir Josh Fox, le réalisateur de Gasland, etc. Donc, on a créé des liens. On est allé à Vanguard, on est allé à Saint-Jean-du-Gard quand ils ont fait leur première réunion. Pour montrer comment on procédait, toi, on avait un peu d'ancienneté, un mois ou deux de plus. Et donc, on a montré ce qu'on faisait. Ensuite, on leur a montré comment on voulait s'organiser. Parce que dès le départ, on a dit, il n'y a rien à attendre de ceux qui ont laissé passer ça. Donc, nous allons créer un machin citoyen et on veut bloquer. Bloquer parce que ça va être un choc. C'est le sol de toutes les propriétés des gens ou des coins qu'ils aiment, de l'eau, qu'ils boivent, du vin qu'ils boivent, que vont devenir les AOC, etc. Et donc là, il faut s'en occuper nous-mêmes, les citoyens, puisqu'on est mobilisés, on veut bloquer, nous. Nous aiderons les organes qui voudront, etc. On va organiser ça. Et là, alors il y a le pôle juridique qui s'occupe de parties juridiques, à Paris aussi, il y a une coordination nationale, il y a un tas de machins. Mais ici, ça flambe vraiment et on est prêt, disons. À la fin de chaque réunion, on faisait signer les gens qui voulaient bien collaborer avec nous pour bloquer. Donc, il y avait des listes qu'on mettait sur les tables et ils mettaient, s'ils voulaient avoir de l'information, ils mettaient leur mail. S'ils voulaient collaborer à des pyramides téléphoniques d'alerte et d'action, ils mettaient leur numéro de téléphone. Hein. Et à partir de là, on a 3000, on a un fichier de 3000. Ensuite, on s'est rapproché de Greenpeace sur les méthodes. Hein, ils sont venus nous faire des stages, en représentant d'ailleurs du Gard aussi, de l'Aveyron aussi, etc.
On va en discuter après une petite pause musicale.
D'accord.
Patti ?
C'est qui ? Édouard Chollet. Édouard Chollet, maire de Barchac.
D'accord, merci.
Voilà. Il y a beaucoup d'appelus, mais peu d'élus. Alors, tout d'abord, je tiens à présenter des excuses, puisque j'étais à un premier débat, mais alerte orange oblige, de temps en temps, je suis maire, et donc j'étais requis pour des raisons de sécurité sur ma commune. Concernant les gaz de schiste et Barjac, son canton, la région du nord du département, de la Basse-Ardèche ou de l'Ardèche la plus méridionale, c'est plus noble, tout l'été, il y a eu un phénomène de mûrissement, à savoir que des militants ont été partout présents dans l'ensemble des manifestations de la commune pour sensibiliser nos visiteurs, les populations aussi, à ce problème. C'est une région fortement touristique et nous avions aux trois ronds-points majeurs de la commune des artistes qui avaient fait des choses bien, esthétiquement parlant et politiquement aussi, avec des slogans comme « Nos vies valent mieux que vos profits » qui n'ont pas plu à tout le monde, mais ce n'était pas fait pour plaire à tout le monde évidemment, qui se sont trouvés déchirés à plusieurs reprises. Un Déric qui, je crois, a été transféré ici, qui trônait à côté d'un rond-point à la Cigale, Cigale au Dolmen, donc des tracts, et puis tous les vendredis sur les marchés, et puis sur la foire aux antiquités et la brocante qui dure une semaine et qui amène 30 000 personnes. Ces militants qui vont venir ici, il y a Joël Jolivet, on en a parlé, qui est un des maires du canton de Barjac, maire de Tarot, et d'autres, Sonia Liska, qui ont été partout présents. Aujourd'hui, je crois que l'alerte est belle et bien donnée et qu'il s'agit de maintenant préparer, selon toute éventualité, l'invasion des camions. Évidemment, nous n'avons pas des missiles de l'OTAN, ce qui est bien dommage. Peut-être d'ailleurs va-t-on laisser ces gaz de schiste, puisque on vient de faire même basse, somme toute, sur d'immenses ressources pétrolières en Afrique, en Libye, grâce à nos canonniers. Donc voilà, il y a les arrêtés qui sont pris. Pour le moment, je ne suis pas poursuivi. J'ai fait quelques réserves pour tenir, en cas de cas. Sans la population, nous ne pourrons rien faire. Je crois que il faut être comme un poisson dans l'eau avec les gens. Aussi, j'appelle l'attention sur ce problème. Trop d'excitation peut nuire à l'action. Il faut que les choses soient mesurées, dites, qu'elles soient expliquées, et puis que l'on rassure, nous ne sommes pas des agitateurs, ni des... Voilà, il faut avoir la bonne mesure pour ne pas fâcher les gens et peut-être pas mélanger aussi toutes les problématiques. Je le dis, mais je viens de le faire, puisque j'ai fait une allusion au pétrole, aux ressources pétrolières. Et voilà, j'ai quitté un instant Barjac et son problème pour aller vers le même problème, mais ailleurs. Moi, je n'ai pas la science infuse concernant l'action. C'est vrai qu'il peut paraître facile de dire, ben, distribuons des formules chimiques, des bouteilles, de l'essence, des chiffons, préparons des cocktails. Ça va effaroucher du monde. C'est vrai que en France, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dit bien, lorsque la loi est bafouée, il y a lieu pour le peuple de se révolter. C'est un devoir pour lui. Je crois que le pouvoir n'a pas fini de ressentir douloureusement cette faille qu'il a commise. Quoi que l'on pense des problèmes des gaz de schiste, il ne peut pas être accepté que dans ce pays, un commis, un domestique, fut-il ministre de Total, prenne un arrêté et que ce n'est qu'après que les boucliers très nombreux se soient levés que les députés, enfin, aient ça sur leur pupitre pour en débattre. Et d'ailleurs en débattre avec le résultat que l'on sait, puisque on a enlevé simplement un article sur la notion de fracturation hydraulique. Et puis c'est revenu. Et maintenant, la recherche pourrait être permise si ces compagnies font état du fait qu'elles ne fractureront pas la roche mère avec d'abondantes eaux souillées de perlimpinpin divers et variés, tous aussi bons les uns que les autres. Donc il y a là un déni de démocratie qui peut coûter cher, parce que on sait que quand il y a déni de démocratie, il peut y avoir violence. Et quand on a le dos au mur, cette violence, peut-être, c'est en tout cas une notion tout à fait française, de 1793, tout à fait légitime.
Oh, y avait guerre, rancune et gaz de schiste. Au diable guerre, à qu'une égage de schiste. Comme nos pères, luttons pour le pays et notre terre reste belle à l'infini. Au gage de schiste, nous disons non et non. À vue de schiste, nous disons non et non. Entendez bien ce cri qui est profond. Gage vue de schiste, non et non et non. Politiciens, pétrole et financiers. Politiciens, pétrole et financiers. Sachez que nous resterons vigilants sur sans pas dupes de vos agissements. Au gage de schiste, nous disons non et non. À vue de schiste, nous disons non et non. Entendez bien ce cri qui est profond. Gage vue de schiste, non et non et non. Forêts, rivières, fleuves, océans. Forêts, rivières, fleuves, océans. Sont pas à vous, mais bien à nos enfants. Et c'est pourquoi nous resterons sur les dents. Au gage de schiste, nous disons non et non. À vue de schiste, nous disons non et non. Oh, la.
Nous sommes de retour à Lézan, donc dans le hangar, à l'occasion de la manifestation Convergence citoyenne pour la transition énergétique.
Et nous poursuivons avec Jean-Louis Chopy, qui fait partie du collectif Stop au gaz de schiste d'Ardèche. Donc je vais te laisser rebondir sur ce que vient de dire donc, le maire de Barjac. Et puis peut-être, bien évidemment, on abordera la question du mélange des problématiques et puis aussi des moyens. Jusqu'où les collectifs, vous êtes en train de discuter de la rentrée, de ce qui va être nécessaire de faire pour stopper le projet de fracturation, où vous en êtes de vos réflexions, jusqu'où vous êtes prêt à aller?
Alors j'ai commencé par ça, parce que c'est le but de la manœuvre. Je crois que la solution ne peut pas être uniquement juridique. D'abord, ça va être dans 2-3 ans, et ils auraient commencé à forer. Ensuite, il y a une telle pression au plan mondial sur l'énergie qu'il faudra aussi, tout à l'heure, on parlera du problème énergétique qui est essentiel. Nous, on a décidé que non, nous refusons qu'ils viennent pourrir nos vies, parce que c'est pourriture, pourrir de l'eau, pourrir l'air. Il n'y a qu'à avoir un bout de Gazland et ça suffit. Donc, c'est pas possible, tout simplement pas possible. Et là, nous sommes tous sur le même diapason hein, dans le groupe. Donc, il faut bloquer. Comment bloquer? Alors, bloquer, nous voulons le faire sans violence. Mais j'ai toujours dit dans la réunion, dans un premier temps, si nous n'arrivons pas à faire comprendre aux firmes qui dominent nos politiques nationaux que nous nous opposerons, c'est une insurrection illégale, mais légitime, parce que ça défend nos vies. Nous voulons aller jusqu'au bout. Nous sommes prêts à prendre des lacrymos plein la gueule, des coups de matraque, s'il faut aller jusque-là. Pour l'instant, nous restons sans violence de notre part. Mais alors, nous voulons bloquer. Nous sommes plusieurs centaines et j'espère des milliers à vouloir bloquer. Donc, quelques dizaines se sont entraînés pour aller s'enchaîner sur les camions à la méthode Greenpeace et compagnie, avec d'ailleurs la collaboration des militants de Greenpeace. On ira s'enchaîner et en même temps, il faut qu'il y ait des centaines, voire des milliers de gens, de citoyens qui comptent les points. Parce que les forces de l'ordre sont finalement aux ordres. Non pas du préfet, on l'a vu en due, non pas de etc., non, mais finalement des firmes nationales, des firmes internationales qui gouvernent tout ce truc-là.
Alors, en préambule, moi, je voulais te demander, bon, d'accord, on va mettre des bombes,
non,
c'est inéluctable.
C'est pas ce qu'il a dit.
Non, mais je dis à in fine. Mais par contre, en préambule, c'était bien le moment, cette période préélectorale, d'avoir invité les politiques, parce qu'ici, ils brillaient par leur absence. Là.
Bah, ils se sont invités.
Est-ce que vous les avez invités?
Oui. Ah oui. Bah, ils ont été invités par les grandes. Tout le monde peut venir. Il y en a certains que j'ai vus qui sont reprenants. Il y a un stand d'Europe Écologie, il y a un stand, je veux dire, autant qu'ils viennent, nous, on n'est pas contre. Simplement, c'est vrai qu'ils ont été plus présents pendant la période préélectorale, ça, d'accord, et qu'après. Bon, mais ils ont d'autres obligations. Je n'irai pas leur jeter
la pierre non plus, ils ont des obligations. On va les retrouver l'an prochain, non ?
Il faut espérer.
En même temps, c'est que ce qui se passe aussi pendant les périodes, avec un peu d'expérience, on sait aussi un peu ce qui se passe pendant les périodes électorales, c'est-à-dire que on promet beaucoup de choses. Et puis après, le temps passe, et puis après, ben, c'est parti ailleurs, quoi. Et puis après, quand c'est, parce que beaucoup de ces partis ont été au pouvoir, et sur ces questions-là notamment, ils n'ont pas tenu leur, ils ont pas tenu leur parole non plus.
Oui, mais là, si tu veux, c'est un problème existentiel pour les citoyens. Et on a démarré une prise de conscience. On sait qu'il faut reprendre le pouvoir qui nous a été confisqué. Ras-le-bol de la démocratie strictement délégative, c'est pas possible. Il faut reprendre le pouvoir des citoyens. C'est pour ça que dans les réunions, on annonce la couleur. On dit, il faut que vous créiez des collectifs locaux et que vous preniez votre maire avec vous s'il n'est pas directement avec vous tout de suite. Parce que c'est la vie de tous les jours, c'est la vie chez nous, c'est la vie partout.
Oui, mais la vie, tu sais bien que quand il nous manque un demi-litre d'essence pour sortir dimanche, ça y est, c'est la grande panique.
Oui, alors d'accord, là, il faut en discuter aussi. On a foutu en l'air tous nos moyens de transport collectif. Il faut peut-être causer de ça aussi, tu parles transport. Tout ça a été foutu, c'était notre bien commun. Il y a encore les grands ponts qui ont été construits au siècle dernier, etc. Tout est présent, on nous l'a foutu en l'air. Et on nous a appâté, et tout le monde a sa bagnole maintenant, d'autant qu'on n'a pas les moyens.
On nous a quand même fait miroiter le rêve nucléaire, c'est-à-dire l'énergie infinie. Ouais. Il me semble bien quand même que l'ensemble des partis politiques ou même des associations se sont un peu, on va dire, couchés devant ce rêve, non ? Parce que là, quand même, il ne s'est pas passé. Il y a eu Fukushima, ça aurait dû nous réveiller cette année. Hein. Il y a eu à la fois ces deux événements, la mobilisation contre le gaz de schiste, mais également cette catastrophe incroyable qui perdure encore aujourd'hui. On n'a pas beaucoup d'informations sur ce qui est en train de se passer.
Pourquoi on n'a pas beaucoup d'informations ? Parce que les ingénieurs des mines qui gouvernent l'énergie en France, et Areva, et EDF, et le ministère...
Et ces contre-pouvoirs, où sont-ils aussi ?
Ah ben attends, bon, on le fait savoir, les contre-pouvoirs, il faut les créer. On est en train de les créer. Il faut que ça se multiplie.
Ah, t'es en train de dire que ceux qui existent déjà, ils sont pas efficients alors ?
Lesquels ?
Ben, je sais pas, moi, il y a des organisations écologiques, des partis écologiques...
Pas assez, elles sont... Toujours pareil, j'en fais partie aussi, hein. À Frappna, protection nature, on est sans arrêt. On est sans arrêt en recul. On lutte en reculant. On se bat contre un truc, etc. Donc, et ça nous bouffe un temps pas possible. On est sans arrêt en procès contre les uns et contre les autres. Un député maire qui construit une zone industrielle en pleine zone d'expansion des crues de l'Ardèche. Et ça a été autorisé. On a cassé le premier jugement. On est allé jusqu'au Conseil d'État. La zone a été construite quand même. Il faut que les gens se réveillent. Quand on distribue les tracts sur ce problème-là, eh bien, les populations de la Bégude, le petit bled qui avait été inondé avec 3 morts lors de la dernière crue en 92, eh bien, ils avaient la trouille. Hein, c'était les militants qui distribuaient, qui bloquaient les voitures pour distribuer, pour faire connaître. Il faut que ça change. Il faut que les gens se réveillent et prennent en main leur avenir proche et leur avenir plus lointain pour l'enfant, le petit-enfant aussi. Mais là, quand tu montres le résultat de l'exploitation des gaz de schiste au Colorado, dans des photos, tu vois, ou à l'Arkansas, ou en Pennsylvanie, ça, en Ardèche, ça, chez nous, c'est pas possible. Tu vois d'un trou tous les 500 mètres, tous les machins, avec tous les... Attends, c'est pas possible. Quand tu vois la flotte, l'état de leur flotte... Hein, les industriels passent le flotte dans les stations d'épuration des eaux qui ne sont pas du tout faites pour filtrer les produits chimiques qu'ils ont injectés. Ça ressort dans les fleuves et un peu plus loin sur le fleuve, tu as une prise d'eau du village suivant pour alimenter les robinets. Enfin, attends. Attends, c'est pas possible. Alors, l'image marquante de cette histoire, l'eau, c'est quand même la vie. Quand tu vois ce mec qui, avec son briquet, allume son robinet, c'est impressionnant. C'est peut-être pas le plus grave, mais c'est gravissime, quoi, je veux dire. Tu retrouves tout ça, toute cette pollution. Et pas seulement les produits qu'ils ont injectés, parce qu'attention, ils nous ont promis que maintenant, ils n'allaient plus utiliser que des produits qui sont également utilisés dans l'agroalimentaire. Je ne sais pas si tu connais les produits qui sont utilisés dans l'agroalimentaire. Bon. Mais il y en a même qui ont dit avec de l'agar-agar. Alors, l'agar-agar, c'est vrai que c'est super. Hein, c'est un extrait d'algue. Attends. Ils essaient de nous diviser. Ils essaient de nous dire on va faire propre. Les lois qui sont sorties a éteint beaucoup la contestation partout, c'est ça ? Parce qu'ils ont dit, maintenant, c'est plus possible. Notre député UMP, là, il a dit, oh, mais regardez la fracturation hydraulique, moi je suis contre. Hein. Regardez, la loi élimine tout. Le préfet qu'on a rencontré il n'y a pas si longtemps, il dit, maintenant, plus personne n'est possible, n'en faites pas. Je dis, monsieur le préfet, écoutez, nous on est beaucoup moins optimistes que vous. Ce qu'on vous demande, c'est que quand nous allons bloquer sans violence, que vous maîtrisiez vos forces de l'ordre, mieux que nous l'a fait votre collègue d'Anduze au printemps. Parce que là, c'était... La gendarmerie s'est déshonorée, et le préfet avec. C'est pas possible. Si vous laissez faire des choses comme ça, mais c'est l'insurrection. Nous voulons bloquer sans violence. Parce que si nous n'arrivons pas, il y a des groupes bien entraînés, donc à la limite c'est la profession d'ailleurs, qui vont intervenir. Et ce sera facile. Plus facile que de faucher un champ d'OGM. Donc il faut éviter ça. Il faut bloquer ce système d'exploitation, exploration. Et deuxièmement, il faut réfléchir à l'énergie. Il ne faut pas oublier que la moitié du pétrole du monde entier a été consommée par le milliard de blancs que nous sommes. Et puis assimilés blancs, les petits blancs, comme on dit, les riches. La moitié du pétrole qui reste, enfin le pétrole qui reste, qui est la moitié des réserves. Les autres milliards d'humains ont envie de l'utiliser. Et malheureusement, comme nous, parce qu'ils regardent la télé américaine, européenne, etc. Et là, il y a un vrai problème. Obama, en août 2010, a fait venir les ministres de l'industrie de 20 pays, surtout des sous-développés, en leur disant, alors il y avait la Chine et l'Inde, hein, sous vos pieds, vous avez une richesse, gaz de Chine, gna gna et compagnie. Et en sous-entendu, arrêtez de nous piquer les contrats du pétrole en Arabie Saoudite, etc. Le problème est mondial. L'énergie, c'est le sang de nos sociétés, qu'elles soient développées ou pas, d'ailleurs. Et donc, il faut arriver à trouver une solution qui n'aille pas, qui empêche la guerre entre les pays pour l'énergie et pour l'eau, d'ailleurs.
On va faire une petite pause musicale.
L'esprit qui surchauffe, les gens se détestent. La guerre des égaux, 21e siècle. Cynisme et mépris, non-respect de la terre. Folie plein les tripes, frontières, barricades. Émeutes et matraques, cris et bains de sang. Bombes qui éclatent, politique de la peur. Science immorale, insurrection d'un peuple. Marché des armes, nouvel ordre mondial. Fusion de terreur, l'homme, l'animal. Le plus prédateur, le système plus la mort. Assassin de la vie, a tué la mémoire. Pour mieux tuer l'avenir, des disquettes plein la tête. L'essence nous trompe, le troisième œil ouvert. Car le cerveau nous ment, l'être humain s'est perdu. A oublié sa force, a oublié la lune. Le soleil et l'atome, inversion d'épaule. Vers la haine se dirige, a perdu la raison. Pour une excuse qui dit l'égoïsme en devise, époque misérable, haine collective contre rage viscérale. Une lueur dans le cœur, une larme dans l'œil, une prière dans la tête, une vieille douleur, une vive rancœur. Là où meurt le pardon, où même la foi prend peur. Allez, viens, nous partons. Des lois faites pour le peuple et les rois tyrannisent. Confrérie et business en haut de la pyramide. Ça sponsorise le sang entre chars et usines. Innocents dans un ciel aux couleurs des usines. Un silence de deuil, une balle perdue. Toute une famille en pleurs, un enfant abattu. Des milices de l'État, des paramilitaires. Des folies cérébrales, des peuples entiers à terre. Bidonville de misère à l'entrée des palaces. Liberté volée, synonyme de paperasse. Humanité troquée contre une vie illusoire. Entre stress du matin et angoisse du soir. Des névroses plein la tête, les nerfs rompus. Caractérisent l'homme moderne, bien souvent corrompu. Et quand la ville s'endort, arrive tant de fois. Une mort silencieuse, un SDF dans le froid. Prison de ciment, derrière les œillères. Le combat est si long pour un peu de lumière. Les familles se déchirent et les pères se font rares. Les enfants ne rient plus, se bâtissent des remparts. Les mères prennent sur elles, un jeune sur trois en tôle. Toute cette merde est réelle, donc on se battra encore. C'est la malade Libra qui nous bouffe les tripes. Une bouteille de vodka, quelques grammes de weed. Certains ne reviennent pas, le serrage est violent. Subutex injecté dans une flaque de sang. Des enfants qui se battent, un coup de couteau en trop. C'est plus à la baraque que les mômes rentrent tôt. Ils apprennent la ruse dans un verre de colère. formatage de la rue, formatage scolaire. C'est chacun sa disquette quand les mondes se rencontrent. C'est le choc des cultures, voire la haine de la honte. Les barrières sont là, dans nos têtes, bien au chaud. Les plus durs craquent vite, c'est la loi du roseau. Non, rien n'est rose ici, la grisaille demeure dans les cœurs meurtris. Qui a petit feu meurt, ne pleure, revois ma sœur. Car tu portes le monde, noble est ton cœur. Prends-toi et remonte, n'écoute pas les bâtards qui voudraient te voir triste. Même terre mère est malade, mais terre mère résiste. Homme s'est construit son monde, apprenti créateur. Qui a tout déréglé, sanguinaire, prédateur. Babylone est bien grande, mais n'est rien dans le fond qu'une vulgaire mascarade au parfum d'illusion. Maîtresse de nos esprits, crédules et naïfs. Conditionnement massif, là où les nerfs sont à vivre. Dans la marche et la rage, bastion des galériens. Ensemble nous sommes le monde et le système n'est rien. Prends conscience mon frère, reste près de ton cœur. Méfie-toi du système, assassin et menteur. Éloigne-toi de la haine qui nous saute tous au bras. Humanité humaine, seul amour nous sauvera. Écoute le silence quand ton âme est en paix. La lumière s'y trouve, la lumière est rentrée. Vérité en nous-mêmes, fruit de la création. N'oublie pas ton histoire, n'oublie pas ta mission. Dernière génération à pouvoir tout changer. La vie est avec nous, n'aie pas peur du danger. Alors levons nos voix pour ne plus oublier. Bout de poussière d'étoiles, qu'attends-tu pour briller? Tous frères et sœurs, reformons la chaîne. Car nous ne sommes qu'un, divisés dans la chair. Retrouvons la joie, l'entraide qu'on s'élève. Une lueur suffit à faire fondre les ténèbres. S'essouffle ce temps, une odeur de soufre. La faim se ressent, la bête envoûte la foule. Les symboles s'inversent, se confondent les obsèques. L'étoile qui fait tourner la roue se rapproche de notre ciel. Terre à l'agonie, mal-être à l'honneur. Folie, calomnie, peu de cœur à la bonheur. Ignorance du bonheur, de la magie de la vie. Choqué par l'horreur, formé à la survie. L'époque, le pire, une part des conséquences. Le bien, le mal aujourd'hui, choisis ton camp. L'être humain s'est perdu, trop centré sur la voie. Les étoiles se concertent pour nous ramener sur la voie. Quadrillage ficelé, mais passe la lumière. Et confiance en la vie, en la force de tes rêves. Pousse un ange à l'épaule, présent si tu le cherches. Quand le cœur ne fait qu'un, avec l'esprit et le geste. Le grand jour se prépare, ne vois-tu pas les signes? La mort n'existe pas, c'est juste la fin des cycles. Cette fin se dessine, l'humain se décime. Espoir indigo, les pléiades nous désignent. Lève ta tête et comprends, ressens la force en ton être. Dépasse Babylone, élucide le mystère. Rien ne se tire au sort, que le ciel te bénisse. Enfant du quinto sol, comprends entre les lignes. Comprends entre les lignes. Enfant du quinto sol, le soleil est en toi. Fais briller ta lumière intérieure pour éclairer le chaos de leur monde. Car on n'est pas là par hasard. Les pléiades nous désignent. Comprends entre les lignes. La vie est grande. Ton cœur, désobéissance. La vérité est en nous. Car la solution est en nous. Parce que la vie est en nous.
Donc de retour à Lézan dans le Gard à l'occasion de la manifestation Convergence citoyenne pour la transition énergétique et avec les sous l'égide de Radio Escapade.
Voilà, on l'a dit. Non, ça nous aurait coûté cher sans ça. Voilà, donc on continue avec Jean-Louis Chopy qui est du collectif Stop au gaz de schiste d'Ardèche. Donc on a essayé de voir un petit peu comment vous étiez constitué. Il y a beaucoup de mobilisation hein, dans la région sur cette question oui. du gaz de schiste, presque d'une manière, on va dire, un peu étonnante. Ça faisait depuis des années, peut-être des dizaines d'années, qu'il n'y avait pas eu autant de gens.
Ah, ben oui,
Ouais.
Ben une réunion de 15 à 20 000 à Villeneuve-de-Berg fin février, c'est colossal.
C'est
15
énorme.
À 20 000 personnes.
Énorme. Donc on était en train de voir un peu comment créer des liens. D'abord, dans un premier temps, créer une coordination des collectifs anti-gaz de schiste, oui. Puisqu'il y a énormément de collectifs locaux, même dans la région parisienne et ailleurs. Mmh. Donc la nécessité de se coordonner, de voir ensemble, discuter, réfléchir aux moyens que vous allez vous donner à la rentrée. Et donc et puis aussi donc créer des liens, ça devenait, c'était nécessaire. Et puis on le voit bien sur ce festival, mélanger un peu les problématiques, puisque il y a la question du nucléaire qui est posée, il y a la question de l'international, puisque la question de l'extraction des gaz de schiste se pose dans d'autres pays que la France. Et puis voir un petit peu d'autres possibilités énergétiques, commencer à discuter des alternatives et des possibilités donc de voir en dehors des gaz, du pétrole, les possibilités de créer d'autres énergies. Donc il y a vraiment un mélange des problématiques, ça ouvre, c'est-à-dire que le fait d'être en mouvement, le fait d'être en lutte, de réagir par rapport à une situation locale, là tout à coup ouvre sur d'autres réalités, d'autres problématiques.
Ben oui, mais c'est lié, parce que si nous ne posons pas le problème de la consommation, de la surconsommation d'énergie et la production de l'énergie nécessaire, on aura les gaz de schiste, on aura les guerres. Il faut à tout prix la poser. Même si certains disent c'est trop tôt, on a mobilisé contre les gaz de schiste, il faut rester là, on risque de froisser des gens, etc. Non ! En France, on n'a que 25 à 30 ans de retard sur les discussions et les débats sur ce sujet à temps, grâce à toujours les mêmes, je ne vais pas redire, ingénieur général des mines, etc. Les grandes choses, le nucléaire, quoi, quand même. On nous a enfilé un programme nucléaire sans consultation, même de nos élus. Personne n'était consulté. Ça a été décidé à haut niveau par les techniciens, signé par Pompidou, qui est mort peu après, et ensuite Chirac et compagnie. Ça a été, non, et
je
Mitterrand
voulais,
aussi.
Voilà, je ne voulais pas oublier Mitterrand, quand même.
Non,
c'est lui qui l'a développé. Hein,
oh, tout le monde.
Non, mais ils ont été. Ça a pris
de
l'expansion.
J'ai une lettre de Jospin, justement, une pétition. J'ai une lettre de Jospin, un peu avant qu'il se fasse virer, là. Une lettre de Jospin qui répond avec toi. Bien sûr, on va développer l'énergie rurale, mais le nucléaire est absolument nécessaire, etc. Attends, de quoi qu'on cause ? C'est ça le problème. De quoi on cause ? Est-ce qu'on a besoin de gaspiller autant d'énergie ? On nous a fait abandonner nos transports en commun pour que chacun achète des bagnoles, une, deux, trois bagnoles par couple, pour dépenser. On sait faire des moteurs moins gourmands, mais il fallait bouffer le pétrole produit par... On est pris là-dedans. Et il faut l'analyser. Il faut que tout un chacun, et ensemble, on analyse tout ça, hein, pour savoir quel comportement adopter. Ce n'est pas la peine de développer les énergies alternatives, solaires, etc., si on ne révise pas complètement notre façon de consommer. Ça ne sert à rien. Si on garde le nucléaire, c'est peanuts, effectivement, ce que disent évidemment tous les représentants de l'establishment. J'aime pas ce mot parce qu'il y en a un autre qui l'emploie et ça ne me plaît pas. Bon, mais c'est comme ça, je veux dire. Il faut réfléchir, il faut vraiment refaire notre société, toutes les structures. Et là, on ne peut pas attendre d'en haut que ça se refasse.
Mais Jean-Louis, moi, ce qui me trouble, c'est que quand même, c'est pas un peu entraîner les gens dans la confusion, parce que tu te rends compte, ne serait-ce qu'ici, sur ces rencontres, tout ce que vous demandez aux gens d'assimiler.
Oui, ben, bien sûr, parce qu'on a tellement de retard, on n'a jamais discuté. Officiellement, on n'a jamais discuté. Nous, on a fait notre problème en tournant dans les communes. Pourquoi alors ? Il y a un des moyens dont je n'ai pas parlé. Il y a
la motivation, justement. Comment motiver les gens pour justement leur faire ingurgiter tout ça ?
Oui, mais il y a des professionnels qui ont conçu le scénario négawatt. Négawatt, ça veut dire, donc néga, hein, négation, le watt qui coûte le moins cher, à tous les points de vue, c'est celui qu'on ne consomme pas. Donc ils ont développé, depuis quand même une dizaine d'années, ils ont développé un scénario d'ici à 2050. Comment sortir, à la fois du nucléaire aussi, des consommations d'énergie fossile, parce qu'il ne va plus y en avoir ou pas beaucoup, etc., pour ne pas complètement, une part, soit bouleverser nos vies, soit aller vers des conflits internes chez nous. Si jamais brutalement, l'essence et le gazole passe à 5 euros. Comment vont faire tous les collègues qui qui ont, pour acheter, pour construire leur petite maison particulière, ça aussi c'est un rêve qu'on pourrait constater, et
avoir,
qui ont acheté un terrain à 50 km de leur boulot à Montélimar ou Valence, qui ont deux bagnoles pour aller au boulot, comment ils vont faire à ce moment-là? Ils n'ont même pas réussi à avoir assez de sous pour crépir leur baraque. C'est un problème sociétal.
Mais
c'est tout le monde qui est dans le coup. Et si on prend pas, si on commence pas à discuter de ça, mais on va le prendre dans la gueule, un grand coup de poing. Alors il faut. C'est un choix, si tu veux. C'est un choix. Si jamais.
Attends, je voulais juste, ouais. Juste deux secondes avant la question de Joël. Juste, c'est assez marrant quand même dire on s'en prend plein la gueule depuis on a l'impression. Mais on a l'impression qu'on se réveille. Il y a 20 ans encore, à Plogoff, à Crémalville, il y avait d'énormes mobilisations sur la question du nucléaire. On a l'impression que là, il y a une espèce de vide depuis 20 ans où les gens ont arrêté de réfléchir. Alors oui, peut-être il va falloir se remettre à réfléchir et se réveiller un peu de cette léthargie et essayer d'éviter que ce soit toujours les même qui prennent les décisions pour les autres et puis se remettent à réfléchir. Oui, parce qu'il y a 20 ans, ces questions-là, elles étaient posées dans la société d'une manière générale et ça effrayait personne et là, ça leur faisait pas mal à la tête. Donc, ce serait bien qu'on se remette à réfléchir.
Et il faut...
Joël
sur la consommation électrique, on le voit, notamment en région parisienne, mais dans les grandes villes, qu'est-ce qui a été l'essor, là aussi, il faut se pencher sur l'architecture, qu'est-ce qui a été l'essor des constructions et du chauffage? C'était le chauffage électrique.
Bah ouais,
il y a énormément eu de chauffage électrique et les gens se retrouvent ruinés. Avec, déjà financièrement, c'est un coût énorme au niveau des factures, mais aussi au niveau de la facture environnementale. Là aussi, il y a une réflexion aussi à amener.
Il y a des choix quand même.
Il y a des choix qui ont été faits. Voilà, maintenant, ces choix, il faut les remettre là aussi en question.
Là aussi en question, bien sûr. Mais pourquoi ces choix ont été faits? Par les particuliers, on dira, ah ben oui, moi, c'est moi qui ai construit, c'est moi qui ai mis le chauffage électrique parce que j'avais pas beaucoup de sous, j'ai mis le chauffage électrique. On m'a dit, il y a les conseillers EDF qui ont loué la porte ouverte à la télé tous les soirs. Moi, j'ai pas la télé, hein. On veut pas. Tous les soirs,
raconté, ouais.
Vous avez la bonne façon de penser et d'acheter. Il faut acheter, il faut... Et tout ça, enfin, tout ça a imprégné l'esprit des gens. Si bien que on a une majorité, les trois quarts des personnes, au moins, voudraient sortir du nucléaire. On n'a pas de sondage après Fukushima, d'ailleurs. Mais avant, trois quarts des personnes. Mais on ne peut pas, vous rendez compte, etc. C'est ça, effectivement. Oui. C'est ça qui est terrible. Et c'est là qui... Pourquoi ça a été bloqué? Tchernobyl nous a été caché les conséquences. Je dis tout à l'heure en aparté. Il y a quand même... On a été arrosé tout le tiers est de la France. A bien pris avec la flotte. Le césium-137 s'est abattu. Mais non, il n'y a rien eu. À Tchernobyl, il y a eu 37 morts, c'est tout. Sauf que sur les 600 000, qui sont venus sauver leurs concitoyens, il y en a la moitié qui ont crevé quand même. Évidemment, pas tout de suite. Hein? 5 ans, 10 ans, 15 ans après, mais ils ont crevé à cause de ça. Et c'est ça quand même qu'il faut dire. Et ça, c'est pas révélé, c'est blackout. Tu m'as parlé de Fukushima tout à l'heure. Pourquoi on n'a pas d'informations sur le Fukushima actuellement? Les trois cœurs ont fondu, ils sont au fond.
Ils continuent.
Ça n'a pas encore explosé, mais c'est tout, tu vois. Et pourquoi on a fermé le robinet informatif vis-à-vis des citoyens? Il faut révéler ça, il faut parler de tout ça, parce que tout ça nous concerne au premier chef.
Pour revenir au gaz de schiste, on a entendu récemment Monsieur de Margerie, donc de chez Total, dire, alors c'était assez drôle parce qu'ils ont toujours dit du pétrole, on en a pour des années. Et puis là, on a entendu dire par rapport au gaz de schiste, on va arriver à la fin du pétrole, donc on a besoin d'une énergie de remplacement. Il a dit le gaz de schiste va être bien. On va prendre des mesures de sécurité, on va faire des fragmentations sans produits chimiques. Et quelque part, c'est un peu le pari de la science, quoi. C'est toujours la même chose. Hein. Comment vous réagissez justement par rapport à cette question-là?
Alors cette question-là, on a quand même dans nos troupes d'anciens géologues et hydrogéologues en pagaille, sans fracturation. C'est pas la peine. C'est pas rentable. On va sortir quelques gouttes, quelques machins. Pas oublier le problème. C'est pas des schistes d'ailleurs, ce sont des argiles durcies. Il y a des milliards de toutes petites gouttelettes de pétrole ou toutes petites gouttelettes de gaz qui sont emprisonnées là-dedans. Il faut écraser ces argiles pour sortir ces petites gouttelettes. Elles ne vont pas sortir toutes seules. Donc, il y a des gens qui... Ouais, coup de vent. Il faudrait utiliser plus le vent, il y en aurait moins. Il faut réaliser qu'actuellement, pour extraire ce gaz, il n'y a pas d'autre solution que de fracturer, que d'écraser ces argiles.
Alors,
pour sortir les bulles.
Oui, parce que là, apparemment dans le public, puisqu'il y a un peu des gens qui sont venus nous écouter, si vous avez envie d'intervenir, vous pouvez le faire. Et on a, je crois, quelqu'un qui a travaillé pour Total, je ne dis pas de... Mobile, oh là là, c'est un peu la même. Mobile, et donc peut-être tu es informé sur la question de...
Oh, très bien informé.
Eh bien, je t'en prie, éclaire-nous.
On a réalisé pas mal de sondages dans les années 80 sur Quissac, notamment sur le domaine de la Devèze, où d'ailleurs le propriétaire a nommé le lieu des quatre forages, il l'a nommé Pétrole, et site intéressant à aller visiter pour la pollution et l'environnement. Donc quand vous vous dites que la fracturation, on ne peut pas exploiter du pétrole ou autre sans fracturation, c'est faux, puisque aujourd'hui, monsieur, et depuis toujours, quand on forait, on allait aussi sur la fracturation, il y a très longtemps, puisque dans les années 80, on faisait des forages pas à très grande profondeur. Nous, on en a fait jusqu'à 1500 mètres, et le dernier qui avait été fait était aux alentours de 10-11 000 mètres. Et le record a été battu à plus de 11 000 mètres par Total. Ça, il faut se rappeler. Donc on a fait des forages au large des Sainte-Marie-de-la-Mer, on en a fait en Camargue, c'est protégé, bien entendu, et on en a fait sur Quissac et tout. Donc moi, j'ai arrêté en 83 de travailler chez Mobile parce qu'il y avait des intérêts politiques qui faisaient que, donc et on a laissé tomber. Bon, moi, depuis quelques années, je mène des études personnelles sur le devenir, justement, de l'exploitation des huiles et gaz divers. Et j'ai pondu pas mal de petits rapports qui n'ont jamais été écoutés par personne. Je l'ai envoyé notamment à pas mal de maires, députés et tout. Vous avez ici un courrier qui a été envoyé par la société Move Oil à M. Chollet de Barjac, qui, normalement, Move Oil est à Paris. Alors, ce qui est étrange, c'est que moi, j'ai eu par la Suisse. Vous avez en bas un petit document qui est caché. Le document a été envoyé par la Suisse et non... par Move Oil Bordenave Paris, et derrière vous avez un petit mot qui a été caché aussi qui dit que le document est à joindre à monsieur Bordenave Paris, qui est le vice-président de Move Oil. Chose bizarre quand un dénommé monsieur Bordenave Paris envoie un courrier. Bon, déjà on s'aperçoit de soi, mais quand on fait l'analyse complète et totale des permis d'exploration qui ont été attribués à différentes sociétés soi-disant nationales comme Bridge Oil, Diamoco et compagnie, qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? On s'aperçoit que ce sont des sociétés écrans avec de très faibles capitaux qui sont bien souvent en EERL ou en SARL, et ces sociétés appartiennent à des groupes financiers tels que le groupe Fréchet, Fréchet Investissement de Rouen, qui lui, Fréchet de Rouen, est sous contrôle de Move Oil dans le canton de Zoug, qui, Move Oil, appartient à Marque Riche de Metal Europe, Salsigne et ici Saint-Sébastien des Grefeuilles, sites les plus pollués de France. Donc moi je dis aujourd'hui, quand on veut parler des gaz de schiste, il faudrait déjà savoir précisément le type d'exploitation. Comment ? Alors se battre contre, premièrement, la fracturation hydraulique qui a été faite puisqu'elle utilisait des produits chimiques, mais il faut savoir qu'il y a d'autres fracturations. Il y a la fracturation pneumatique par injection d'air à très haut, je dirais, très haute pression. Et ensuite, on a l'injection de gaz liquide dans les forages, et qui, injection de gaz liquide au moment de la détente, explose. Alors, ce qui est vachement dangereux dans notre région, c'est que nous, ce ne sont pas des schistes, ce sont bien souvent des houilles sur le bassin alésien et Gardanne. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On a des poches de gaz naturels, hein, qui sont les grisous. Alors, quand on va forer et fragmenter avec des gaz liquides, ce qui va se passer est très simple. On va détonner, on va enchaîner des implosions, des fameuses poches de grisous, qui augmenteront et amplifieront au fur et à mesure l'onde de choc. Et alors, chose bizarre, monsieur, c'est qu'en le 17 juillet 2011, j'ai pondu un rapport concernant la faille qui traverse notre région, et qui est la suite de la plaque tectonique africaine, qui n'a jamais bougé, sauf en 1909, où on a enregistré, sur l'échelle de Richter, une secousse de 7,5 à Lambesque, de 4,5 dans le Gard, et de 3 en Ardèche, et dans le Massif central. Or, dans mon rapport ici présent, je signalais le risque que l'on nourrit par ces exploitations de gaz de houille et compagnie sur des sites comme Salindre, sur des sites comme Cadarache, Pierrelatte, Tricastin, Marcoule. Et je notais, cette faille présente des points de faiblesse en diverses zones, tels que sur le site d'exploration de Barjac, où nous pourrions connaître des secousses sismiques déclenchées par des micro-secousses en chaîne qui, elles, seraient déclenchées par l'implosion des poches de grisou, gaz de houille, contenu dans le sous-sol, et qui entraînerait une amplification linéaire de l'onde de choc ainsi engendrée, qui aurait pour cause d'enclencher une secousse sismique importante de la faille... Excusez. Donc, de la faille, de cette faille sismique qui traverse les villes de Barjac, Saint-Ambroise, Rousson, Saint-Brest, Saint-Denis, etc., en continuant sur le massif ardéchois du Grand Tanargue, puisqu'elle traverse l'ensemble, surnommée la montagne du tonnerre et la montagne du diable, avec comme ville sur son passage l'Argentière, Saint-Étienne de l'Arc d'Arès, Thuyette, Valgorge, et ne pas oublier que cette zone est passée du risque négligeable à faible depuis mai 2011.
D'accord. Donc là, ce que vous êtes...
Il n'y a pas longtemps.
Le micro,
Et donc, il y a eu la secousse sismique à Barjac, qui a eu une magnitude de 4,5 sur l'échelle de Richter. Et imaginons-nous le mouvement sismique déclenché par des implosions dans le sous-sol qui pourrait avoir des conséquences beaucoup plus importantes. Et sans oublier les risques dans notre environnement avec des usines telles que Salindre et des centrales nucléaires comme nous avons. Donc aujourd'hui, on parle, je veux bien, de Fukushima. Fukushima, les gens disent oui, mais c'est loin. Non, les vents ont tourné, la mer est polluée, le poisson est pollué, nous risquons d'en manger. On parle du Colorado, monsieur. Vous parliez tout à l'heure du Colorado, de la fracturation hydraulique en Colorado. Le Colorado n'est pas aussi peuplé que ce que nous le sommes en France au kilomètre carré. Donc les risques humains sont tout à fait différents. Donc je dis, le Colorado, c'est une chose. Il faut le citer, oui, dans le cadre du risque de pollution environnementale, tel que sur le Canada. Mais il faut penser que nous, en France et en Europe, nous n'avons pas les mêmes risques.
D'accord. Oui, enfin, on est désolé parce que là, on va être obligé d'arrêter puisqu'on arrive en fin d'émission. Merci beaucoup en tous les cas pour cet
éclairage.
Ouais, donc, tout ça pour dire que toutes les perforations sont tout à fait négatives et pas envisagées. Hein, il n'y en a pas de bonnes. Peut-être le mot de la fin, un mot très très court. Comment t'auras envie de finir ?
Il faut accentuer la lutte et la multiplier. Il n'y a que cette solution pour bloquer toute cette évolution, même si on nous promet, parce qu'ils nous en ont parlé, on nous a parlé de forage électrique. Si. Ce problème-là ramène toujours aux mêmes dégâts, parce qu'on est toujours obligé, finalement, de maîtriser ces roches écrasées, et donc on en arrive au même résultat. Il y a évidemment ce risque de secousse, on en a parlé souvent, mais les gens accrochent moins. Enfin, quand une collègue là d'un collectif m'a appelé le jour du tremblement, elle me dit, ça, ils ont commencé. Je lui dis, non, ils n'ont certainement pas commencé. Sinon. Je lui dis, mais c'est pain béni, parce que ça montre en démonstration que même sans fracturation hydraulique, ce risque existe.
Et bien voilà le premier plateau pour aujourd'hui. Eh ben non, on est obligé de finir. On est désolé. Prends quand même le micro parce que.
Ouais, tu disais. Donc dans l'Aude actuellement.
Très rapidement.
Il y a une exploration qui est en préparation puisqu'ils ont déjà défriché les terres. Ils ont préparé les bases de plateforme. Ils ont attaqué les bacs de décantation en béton.
D'accord.
Hein, donc c'est quelque chose qui va démarrer très rapidement. D'accord. Moi je dis que nos représentants et nos politiques, il faut que nous les obligions, si on veut contrôler le risque, ce n'est pas en lançant des grands mots danger, environnement, c'est les attaquer au portefeuille. Donc c'est obliger les sociétés d'exploration à cantonner des sommes d'argent de plusieurs milliards d'euros pour le risque éventuel. Donc
oui,
cet argent...
ou sinon les empêcher de forer directement.
Oui, mais
peut-être.
Le problème, les empêcher
non,
de forer.
Non, oh là là, on rentre dans un.
Arrivé un moment, on ne pourra pas. Tandis que si on les
verra,
oblige
on verra.
Cantonner des milliards pendant 10 ans.
Il ne faut pas partir perdant comme ça.
Les citoyens de l'Aude se réveillent, il n'y a pas de problème.
Voilà, il y aura moins de problèmes. Merci Jean-Louis Chopy. Tu peux donner ton nom ?
Serge Henry.
Serge Henry, voilà. Et ben pour aujourd'hui, en tous les cas, pour ce premier plateau
de la journée.
Voilà, au revoir. Et puis à tout à l'heure pour celui de 14h. Voilà. Au revoir.
La convergence citoyenne pour une transition énergétique, à l'initiative des collectifs contre le gaz de schiste. Les 26, 27 et 28 août à Lézan en Cévennes, c'est le rassemblement Énergie pour la planète. Un événement couvert par une quinzaine de radios associatives partout en France.